Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine juste après Vibra SOS sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, que ce soit en direct ou en différé, parce que vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts sur le site internet graphite.net. Bonjour à tous, c'est Jean-Noël avec vous pendant une heure pour cette émission Biotine. Biotine vous permet de vous tenir informé de l'actualité scientifique, technique, médicale pendant une petite heure. Nous allons ensemble feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et nous intéresser un petit peu à ce qui se passe dans les laboratoires du monde et se dire que finalement ce qui se passe dans les laboratoires va nous concerner dans notre quotidien bientôt ou peut-être un petit peu moins rapidement, mais en tout cas, il y a encore pas mal d'informations qui circulent au niveau de l'actualité scientifique et on essaye toutes les semaines de faire un petit point comme ça pour se tenir informé. C'est le but de cette émission. Nous sommes déjà en décembre. Mon Dieu, mais ça passe vite, ça me fait peur. Nous sommes le 7 décembre, journée de l'aviation civile internationale. C'est le moment de prendre l'avion, alors c'est aujourd'hui et nulle part ailleurs, le 7 décembre. Et au niveau de l'éphéméride, au niveau sciences et techniques, le 7 décembre est une journée assez faste. Autant des fois, il y a des jours où il n'y a pas grand-chose à raconter au niveau de l'éphéméride, autant aujourd'hui, au niveau des sciences et techniques, les 7 décembre ont été assez marquants. Alors d'un point de vue chronologique, en 1877, c'est la démonstration du premier phonographe qui a été inventé par Thomas Edison. En 1888, l'inventeur écossais John Boyd Dunlop développe le brevet du pneu à air, bien sûr, Dunlop, c'est son nom qui a été conservé. En 1909, le chimiste belge Leo Backlund dépose le brevet de la Backlund Bakelite. C'est le premier plastique industriel. Ça date de 1909. Un petit peu plus proche, nous sommes en 1972. Apollo 17 photographie la Terre et c'est une image célèbre. C'était en 72. Cette photo, on l'avait appelée finalement la Terre, la bille bleue. C'est un petit peu ce nom qui était resté. En 1995, Galileo se place en orbite autour de Jupiter. En 2009, il y a 10 ans, c'était le début de la conférence de Copenhague sur le climat. Mon Dieu, déjà à l'époque, on en parlait. Et enfin, il y a 4 ans, en 2015, la sonde spatiale Akatsuki se place en orbite autour de Vénus. Donc oui, pas mal de choses finalement le 7 décembre, et c'est tant mieux. Au niveau de l'éphéméride, au niveau des naissances, le 7 décembre 1823, la naissance de Léopold Kronecker, mathématicien, logicien allemand. Il est persuadé que l'arithmétique et l'analyse doivent être fondées sur les nombres entiers. Et il est célèbre pour la citation suivante « Dieu a fait les nombres entiers, tout le reste est l'œuvre de l'homme », dit-il. Léopold Kronecker, qui est donc né le 7 décembre 1823. Un décès, le 7 décembre 1977, celui de Peter Karl Goldmark. Il est ingénieur de famille juive germano-hongroise. Il a été naturalisé américain en 1937. Il est célèbre pour l'invention de la télévision couleur et du disque 33 tours. Peter Karl Goldmark, c'est honnêtement un nom que l'on ne connaît pas, enfin qui n'est pas passé à la postérité, parce que télévision couleur et disque 33 tours, ce sont quand même deux inventions qui ont énormément marqué notre civilisation. Peter Karl Goldmark est décédé le 7 décembre 1977 à Portchester. Cet ingénieur donc qui a inventé des belles choses qui nous servent encore aujourd'hui, mais qui finalement n'a pas réussi à avoir un nom qui est resté dans la prospérité malheureusement. On verra par la suite, on ne sait pas. Voilà, ça c'est l'éphéméride. Et puis, vous le savez, on va continuer à remplir le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. C'est l'année internationale de ce tableau périodique. Et donc, toutes les semaines, nous remplissons une case. Alors, ça commence à pas mal se remplir parce que toutes les semaines, depuis début janvier, on a rempli une case. Là, on arrive au gallium. Le gallium qui est associé à l'indium et à l'étain et ça forme un mélange qui reste liquide jusqu'à moins 19 degrés Celsius. C'est un quelque chose qui est effectivement très intéressant à savoir. En tout cas, c'est ce mélange qui a remplacé le mercure dans les thermomètres, parce que le mercure, c'était un petit peu dangereux, on va dire. Donc, du coup, on utilise du gallium dans les thermomètres. Et sous sa forme métallique, il n'a pas vraiment énormément d'utilité, mais il est utilisé avec de l'arsenic, si bien qu'on fait de l'arsenure de gallium, notamment dans les cellules photovoltaïques, c'est-à-dire les panneaux solaires. Et les lasers Blu-ray que vous avez peut-être chez vous sont en nitrure de gallium, c'est ce qui donne un petit peu leur couleur bleue. L'arsenure de gallium, que je vous disais tout à l'heure, c'est un excellent semi-conducteur. Il émet de la lumière rouge lorsqu'il est traversé par un courant électrique, ce qui en fait bien sûr un matériau de choix, notamment pour les afficheurs électroniques. Si bien que le gallium, on est entouré de gallium, notamment dans ce studio où on a l'horloge qui est avec un afficheur électronique rouge et on se dit qu'il y a du gallium dedans. En fait, le gallium a été prédit par Mendeleïev, mais finalement, ça a été découvert en 1875 par un Français, Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran. Et donc, le nom gallium vient du latin Gallia, qui veut dire Gaule, la Gaule, donc français, donc cocorico, ou aussi Gallus, qui signifie coq, tout simplement parce que, je vous rappelle que c'est le Français Paul-Émile Lecoq qui a découvert le gallium. Donc, il s'est dit, je vais donner ce nom à cet élément, je vais donner mon nom, et donc, on va pouvoir l'appeler le gallium, symbole chimique Granger petit a. Là aussi, c'est facile à se souvenir, finalement, c'est assez logique. Et c'était le numéro atomique 31, donc on a rempli la case 31 avec ce gallium. Et puis la semaine prochaine, pour la dernière émission de l'année 2019, eh bien, on terminera, donc on n'aura pas totalement rempli entièrement le tableau, mais finalement, on a dû avoir pas loin, presque une quarantaine d'éléments que nous avons remplis toutes les semaines. Ça nous permettait, voilà, de connaître un petit peu ces éléments qui nous entourent, leurs applications, comment ils ont été découverts, et aussi ce qui est intéressant, c'est pourquoi on les appelle comme ça. Et donc là, le mec s'appelle Lecoq, il prend, comment on dit coq en latin, ça se dit gallus, donc on va l'appeler gallium. C'est aussi simple que ça parfois, c'est tellement simple, c'est du marketing efficace mes enfants. On retrouvera bien sûr dans cette émission Anne Fleur, qui nous va nous faire voyager, et c'est fort gentil, comme ça, elle choisit une ville, un pays, et elle nous parle des inventions qui ont été créées. On va revenir un peu en Europe, je crois, dans cette émission, après être parti à Denver la semaine dernière. Et donc ça, voilà, ça sera dans cette émission également. Donc on va feuilleter ensemble, si vous le voulez bien, un peu l'actualité scientifique de cette émission. Et je voulais avant m'arrêter sur un article qui a été relayé par le site Futura Science, mais on le retrouve un petit peu partout, concernant le marché du bio. Ce marché qui a pris, bien sûr, on le sait, une ampleur assez phénoménale. Rien qu'en 2017, le marché mondial a atteint une valeur estimée à peu près à 97 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Et derrière cet engouement du consommateur pour le bio se cache un peu un postulat de base qui va amener à une conclusion logique que personne ne semble un petit peu disposé à questionner, qui est que le bio réduit notre exposition aux pesticides. De ce fait, nous pouvons conclure qu'il est forcément meilleur pour la santé que le conventionnel. Eh bien, cet article se demande si c'est finalement si simple. Ne faudrait-il pas se pencher de plus près sur cet argument des plus élémentaires ? Eh bien, c'est ce qu'ont fait des toxicologues du King's College London, donc le Collège Royal de Londres, dont fait partie Robin Ménage, auteur principal de l'étude, et il a relayé ça dans un papier d'opinion publié dans le journal Current Opinion in Toxicology. Alors, soyons clairs, la prémisse de cette conclusion est vraie. Il y a plusieurs études qui ont démontré une moindre exposition aux pesticides de synthèse chez les consommateurs d'aliments bio qui se révèlent aussi être en meilleure santé que des consommateurs d'aliments conventionnels. La vraie question, c'est est-ce que cette prémisse est-elle suffisante pour en déduire sa conclusion, et là, rien n'est moins sûr. En effet, il y a d'autres facteurs inhérents au mode de culture qui modifient certains paramètres entre les aliments biologiques et les aliments conventionnels, et certaines modifications laissent entrevoir la complexité de la question. De plus, Il faut rappeler que l'agriculture biologique, elle n'est pas exempte en plus de l'utilisation de pesticides. Il faut le savoir, hein, la liste des substances autorisées est seulement limitée à ce qui est naturel, entre guillemets. Alors, il faut insister sur le fait que l'on doit s'extraire de cette vision un peu simpliste en invoquant que ce qui est naturel est forcément meilleur que ce qui est recréé synthétiquement par l'homme. Et donc, pour Robin Ménage, le manque de recul concernant les pesticides est un vrai problème, quelle que soit leur origine. Je cite ce qu'il explique dans cet article. Il y a beaucoup de lacunes dans l'évaluation de la toxicité des pesticides, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Il y a peu d'études épidémiologiques et les études sur les rats ne sont pas forcément toujours très fiables pour prédire les effets chroniques. Fin de citation. Alors, ce qui est certain, c'est que la prémisse invoquant l'exposition moindre aux pesticides comme un espèce de mantra n'est pas suffisante pour émettre cette conclusion, et l'article nous explique un petit peu pourquoi. Dans des aliments comme le saumon, comme les œufs par exemple, il y a certaines études qui ont montré une teneur en ce qu'on appelle des polluants organiques persistants, une teneur plus élevée dans les aliments bio que dans les aliments conventionnels. Et cela montre l'importance de ne pas restreindre le champ d'étude aux simples pesticides de synthèse sur la seule base qu'uniquement ces derniers seraient toxiques. Parce que l'un de ces polluants organiques persistants qu'on retrouve dans le saumon, qu'on retrouve dans les œufs, ce n'est par exemple que le dichlorodiphényltrichloroéthane. Alors, je ne vous demande pas de retenir ce nom par cœur, mais plutôt son sigle, le DDT, qui est quand même un nom qu'on retrouve assez souvent comme pesticide, et on connaît bien sûr le potentiel toxique majeur du DDT. Ensuite, on considère souvent que le bio est meilleur pour la santé parce qu'il contiendrait plus de composés protecteurs, des antioxydants, des polyphénols, des vitamines, des minéraux. Sauf que le cahier des charges agricoles, que ce soit l'agriculture biologique ou l'agriculture un peu plus conventionnelle, et c'est ici encore un facteur parmi tant d'autres. Il y a d'autres paramètres prépondérants qui vont avoir une influence sur la teneur en nutriments. Il y a la variété génétique, il y a la température, l'exposition à la lumière, il y a le type de sol, la qualité du sol, la pollution de l'air environnant, bien sûr, la maturité à la récolte, la quantité d'engrais azotés qui était utilisée pour essayer de faire l'accélération de la croissance de la plante. Bref, il y a pas mal d'éléments qui sont aussi pris en considération, autres que les pesticides. Et Robin Ménage vous explique que l'agriculture bio s'intensifiant pour pouvoir répondre justement à la demande des consommateurs, eh bien, il y a une majorité des fruits et des légumes bio qui sont vendus au supermarché, qui sont récoltés avant qu'ils ne soient mûrs, qui sont parfois transportés en bateau à l'autre bout du monde. Et il est clair que cela peut avoir un effet sur la composition nutritionnelle, mais, dit-il, ce n'est pas très étudié. De ce fait, on ne peut pas nécessairement conclure que parce qu'un aliment est bio, il contient plus de composés protecteurs. Je trouve que c'est une étude assez intéressante parce que ça nous donne un angle nouveau et sur le marché de l'agriculture bio. Alors, la plupart des études qui ont tenté d'appréhender les bénéfices de l'alimentation biologique sur la santé sont des études d'observation de cohorte. Alors, qu'est-ce que c'est ? Des fois, on en parle dans cette émission, c'est-à-dire qu'on va suivre des personnes pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, et on va observer, par exemple, un taux de maladie, par exemple le cancer, qui va apparaître chez les mangeurs bio et les mangeurs conventionnels, entre guillemets, et à la fin de l'étude, on fait un peu une comparaison. Et le problème majeur que posent depuis toujours ces études, c'est qu'en fait, elles ne sont pas prémunies face à une espèce d'existence de facteurs de confusion qui fait que on se rend compte que les mangeurs bio, ils ont généralement aussi un mode de vie plus sain et une alimentation qui est moins transformée, qui est plus végétale, qui est plus variée. Ils pratiquent une activité physique, ils ne fument pas, ils ont un niveau socio-économique plus élevé. Bref, ça a aussi une influence sur leur santé. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils mangent bio qu'ils sont mieux, c'est parce qu'il y a tout plein de facteurs qui vont se combiner ensemble, qui font qu'au final, on considère qu'ils peuvent être en meilleure santé. Bref, cet article, qui a donc été relayé par Futura Science, mais aussi par d'autres sites, était intéressant parce que du coup, on se posait vraiment la question sur est-ce que le bio est meilleur pour la santé. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement toujours le cas, ou en tout cas, quand on fait des études sur cet aspect-là, on est obligé de prendre en considération toute une panoplie de facteurs qui font que on n'a pas nécessairement une vision exhaustive de la situation. Voilà, c'était un article qui nous permet justement de prendre un peu de recul toujours sur ce que l'on dit ou sur des idées préconçues et ne pas oublier que ce qui signifie, ce que le terme de bio signifie la vie. Donc il y a aussi un abus de langage, on devrait parler de naturel plutôt que bio, parce que même quelque chose qui est OGM peut aussi être considéré comme vivant, donc comme biologique. Donc voilà, il y a aussi à la fois une sensibilité, une éducation et un meilleur partage des connaissances sur cet aspect-là à prendre en considération. C'était un article intéressant également pour évoquer cet aspect-là qu'on évoque très peu souvent dans cette émission. Et cet article de Futura Science, je trouvais qu'il était totalement approprié pour ce cas-là. Allez, on va écouter un titre pour un petit peu digérer. Vous êtes en train de manger peut-être quelques fruits et légumes bio. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit. On écoute un titre dans cette émission Biotine et on se retrouve juste après pour continuer à feuilleter ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite.
Contemplation, struck by no consideration. Don't you and I give it a better try? So tell me when you think of it. Tell me how you do it. Don't see it right. Do you feel the shake in your body when you take her? Where you really not supposed to be seen.
Thank you.
C'était Do It All Again de Pra sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et vous avez bien raison, je vous envie tellement d'écouter cette émission géniale toutes les semaines entre samedi, le samedi entre 12h et 13h. Je m'envoie des fleurs, après tout j'ai bien raison. Et je vous emmène dans l'espace. Comme toujours, on sait en fait que ces voyages dans l'espace produisent des effets un peu surprenants sur les organismes des astronautes. Et on a déjà vu que la microgravité entraînait une perte musculaire, une extension de la colonne vertébrale, une perte de la vision, une décalcification osseuse, des troubles de la mémoire et même une modification de la forme du cœur. Alors, mon Dieu, c'est quand même pas rassurant, mais on en avait déjà parlé dans cette émission. Eh bien, on s'est également aperçu que les astronautes voient leur température corporelle augmenter d'environ 1 degré au cours de leur séjour dans l'espace. Et il y a une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA qui vient ajouter un détraquement de plus à cette longue liste. C'est le ralentissement de la circulation sanguine pouvant aller jusqu'à une inversion du sens d'écoulement. C'est-à-dire que ça fait circuler le sang des astronautes à l'envers. En temps normal, le flux de sang est régulé par un gradient de pression hydrostatique. En fait, ça empêche le sang de s'accumuler dans le bas du corps lorsqu'on est debout et en position couchée. C'est un peu l'inverse qui se produit. C'est que le sang, il a tendance à s'accumuler dans la tête. Il faut donc l'envoyer vers le reste du corps. Et tout ça, c'est le rôle de la veine jugulaire interne, cette espèce de grosse veine du cou qui part du crâne et qui va jusqu'à la clavicule. Une fois en position verticale, eh bien, cette veine se collapse partiellement ou totalement pour essayer d'offrir une résistance qui va empêcher le sang de s'écouler hors de la tête. Mais en l'absence de gravité, eh bien, cette belle mécanique se grille parce qu'il y a une disparition du gradient de pression hydrostatique qui va un petit peu entraîner une espèce de redistribution du sang, notamment vers la région thoracique et le cerveau. Et ce transfert, qui n'est pas moindre, parce qu'on estime à peu près à 2 litres de sang qui est concerné, ça produit notamment un gonflement du visage, une turgescence des veines du cou, une diminution du volume des jambes, qui aurait presque un petit peu un aspect caractéristique en jambes de poulet, un peu, donc on devient horrible, en fait. L'équipe, en fait, constituée de chercheurs américains et français, s'est demandé comment cette modification de la circulation pouvait affecter la veine jugulaire interne. Et pour cela, ils ont travaillé avec des membres de la Station Spatiale Internationale et on leur a demandé de mesurer leur pression artérielle, leur flux sanguin ou encore leur débit cardiaque après 50 jours et après 150 jours de séjour dans l'espace. Et on leur a demandé ça dans 3 positions différentes, debout, couché et la 3e position, ils avaient un petit peu la tête inclinée à 15 degrés. Et on a également observé cette fameuse veine jugulaire par ultrasion, que ce soit avant ou après la mission. Et on a récupéré toutes ces informations et on en a tiré les conclusions. Et il s'avère que les conclusions sont plutôt inquiétantes pour les astronautes. Le flux sanguin a été quasiment stoppé chez 7 d'entre eux. Ils sont 11 à avoir participé à cette étude. Il y en a 7 d'entre eux qui ont vu leur flux sanguin quasiment stoppé, ce qui fait quand même plus de la moitié, et ça au bout uniquement de 50 jours. Chez 2 d'entre eux, le sens de la circulation dans la veine jugulaire s'est même inversé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans le sens inverse. Il y a un astronaute qui a été victime de thrombose avec la formation d'un caillot qui est dû à la stagnation du flux sanguin. Il y en a un autre qui s'est vu diagnostiquer une thrombose partielle à son retour. Et donc, d'après les chercheurs de cette étude, cette congestion veineuse cérébrale subie par les astronautes pourrait être due à la compression d'une veine inférieure par le déplacement d'un organe plus bas dans le corps. Et donc bloqué, le sang remonterait alors vers le cerveau, d'autant plus que la microgravité va diminuer un petit peu la résistance de la veine jugulaire. C'est un constat alarmant pour les auteurs de cette étude scientifique qui mettent en garde sur ce nouveau risque associé au voyage dans l'espace. Et puis leur manque de chance parce qu'on est dans une phase de féminisation un petit peu des équipages, parce que ce risque est encore plus élevé chez les femmes qui prennent la pilule, parce qu'on sait que cette dernière, elle est connue pour augmenter le risque de thrombose, donc on va encore accélérer ce risque, augmenter ce risque. Il est donc conseillé d'abandonner ce traitement contraceptif durant leur séjour à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais en tout cas, voilà, cette microgravité qui a lieu au sein de la Station Spatiale Internationale a un vrai impact sur la circulation sanguine, avec le fait parfois que ça circule à l'envers. Je trouve que c'est assez inquiétant, alarmant, et finalement ça fait moins rêver. Mais je vous l'ai toujours dit, hein, faut pas croire que partir dans l'espace, c'est finalement un voyage très sympa et tout confort. Il faut avoir un entraînement physique assez important, et là on comprend en plus que d'un point de vue physiologique, c'est aussi assez important, et avec des vraies conséquences, des vrais impacts. Voilà, c'était cette étude qui est apparue il y a quelques jours. Autre chose, on va s'intéresser à ceux qu'on appelle les super centenaires. Ce sont ces personnes qui dépassent les 110 ans. Bien sûr, il n'y en a quand même pas beaucoup, on est bien d'accord, mais on s'est un petit peu penché sur leur vie et on a pu noter un point qui semble commun à tous, qui peut peut-être être la clé du secret de leur longévité. Les super centenaires se révèlent relativement immunisés contre les maladies en tout genre. Et ce sont des chercheurs de l'université Riken au Japon qui affirment aujourd'hui que le phénomène est directement lié à la composition de leur système immunitaire. Et pour en arriver à cette conclusion, ils ont étudié deux types de cellules immunitaires qui sont des lymphocytes qui jouent bien sûr un rôle central en termes d'immunisation. On a collecté ces cellules sur des super centenaires et puis on a collecté aussi des cellules similaires chez un groupe témoin. Et on a remarqué justement que ces fameux lymphocytes présents chez les centenaires étaient pour 80% d'entre eux ce qu'on appelle cytotoxiques. Et ceux qui avaient été pris comme groupe témoin, on s'est rendu compte que ce n'était pas 80, mais 20%, donc il y avait une vraie différence. Et plus précisément, on a découvert que chez les super centenaires, certaines catégories de lymphocytes, qui sont classiquement non cytotoxiques, ils avaient acquis en fait un statut cytotoxique, justement, on évoque en fait peut-être parfois un aspect héréditaire. En tout cas, on se rend compte qu'ils ont un aspect assez intéressant qui fait que ce sont des bons modèles de vieillissement en bonne santé, parce qu'ils arrivent justement à pouvoir avoir de nombreuses cellules qui ont pu être identifiées comme issues d'une seule et unique cellule ancêtre. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert chez les super centenaires est un élément assez important et un sujet crucial dans nos sociétés modernes, parce que justement, si on arrive à comprendre le fonctionnement de ces lymphocytes, de savoir pourquoi ça se met comme ça et pourquoi, quelles en sont les raisons, quelles en sont les causes, on pourrait peut-être aujourd'hui mieux comprendre comment ces personnes sont naturellement protégées contre les maladies, même contre le cancer. Et évidemment, vous comprenez le raisonnement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éventuellement essayer d'investiguer quelques pistes de recherche pour ensuite peut-être développer des thérapies. Alors attention, on n'en est pas encore là, c'est assez loin devant nous, on a encore du temps pour essayer d'avoir quelques idées, mais en tout cas, c'est une étape assez intéressante parce que ça donne une piste de recherche qu'il va falloir un petit peu approfondir pour essayer de comprendre un petit peu mieux le phénomène. Mais voilà, on a découvert un peu le secret de la longévité des super centenaires. Comprendre le secret est une chose, ensuite essayer de pouvoir l'appliquer à tout le monde en est une autre. On en est encore au niveau de la science-fiction pour l'instant, en tout cas dans ce domaine-là. Allez, on continue avec un peu de musique et puis on retrouve Anne Fleur juste après.
J'habite actuellement dans une maison de retraite. C'est difficile de finir ainsi quand on a vu autant du monde. Est-ce que j'ai souri ? Je sais que j'ai dansé devant vous. Je vendais des arbres en fer dans la rue des commerces. Je suis une éphémère que vos regards renversent. Les rues de Pretoria sont vides. Le vent s'étale dans les townships. Les allées de Djobourg ou celles de Pretoria ont un point commun. Un point de couleur. Partout, cette même poussière dans l'air. Partout, cette même poussière dans l'air. Ah,
table d'étranges endroits, dans les vents chauds qui coiffent les incendies, dans les livres qui contiennent les forêts d'autrefois, partout cette même poussière dans l'air.
Gérer des agonies. Les autoroutes s'étendent en avant, brûlent de leur peau de serpent. Le sifflement de l'air sur la fenêtre nous envoûte. Nous avons croisé les agriculteurs d'hier, ils faisaient un grand écart avec leurs yeux. Nous avons écouté l'autre, celui qui parlait. Ses mains étaient un livre ouvert. Partout, cette même poussière dans l'air.
Cette même poussière dans l'air, dans les vents chauds qui coiffent les incendies, dans les livres qui contiennent les forêts d'autrefois. Cette même poussière dans l'air.
Maloya,
Bulbuli vol si la terre Maloya, Bulbuli vol si la terre Maloya,
Bulbuli vol, vol, vol si la terre Maloya,
Bulbuli vol si la terre Maloya, si la terre Maloya.
Poussière de graines sémées sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, et vous avez bien raison. Et bah, vous êtes peut-être assis dans votre canapé, vous êtes peut-être en voiture, vous êtes peut-être en train de déjeuner. En tout cas, vous êtes sagement installé et vous allez voyager grâce à Anne Fleur qui choisit une ville, un pays, nous raconte les inventions qui ont été créées dans cette ville. Alors je pense que là on revient un peu plus proche de nous en Europe. Nous étions à Denver la semaine dernière. Anne Fleur, où nous emmènes-tu cette fois-ci ? Surprise !
Bonjour tout le monde, moi c'est Anne Fleur, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique. La semaine dernière, nous étions au milieu des Rocheuses américaines et aujourd'hui, retour en Europe, au pays de Dracula, direction Bucarest en Roumanie. Alors les 5 inventions dont je vais vous parler aujourd'hui vont, j'espère, vous surprendre. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup plaisir à les rechercher. La première, il s'agit, figurez-vous, de l'insuline que nous devons à un certain Nicolae Constantin Popescu. Qui était professeur en Roumanie de médecine et de physiologie. Il a découvert en fait l'insuline, en 1922, mais du fait de son positionnement politique à l'extrême droite et de son antisémitisme, il a été écarté du prix Nobel en 1923 et donc ses compétences scientifiques n'ont jamais vraiment été reconnues. La seconde invention dont je veux vous parler, c'est la chaise éjectable. On la doit à un certain Anastase Dragomir. À la fin en fait, de la seconde moitié du 19e siècle, et donc au début du 20e, de nombreux passionnés d'aviation ont été très préoccupés par la construction et le pilotage d'avions. Et donc ce fameux jeune Anastase, il s'intéressait à la sécurité des machines de vol, et en particulier à celle des passagers qui étaient à bord. Et il a commencé à travailler là-dessus. En 1928, il a déposé en France la demande de brevet intitulée « Nouveau système de montage de parachutes dans les appareils de locomotion aérienne ». Après plusieurs tentatives, il a réussi à être financé. Et l'invention a été testée pour la première fois à l'été 1929 à l'aéroport de Paris-Orly. Voilà, merci Anastase. La troisième invention dont je vais vous parler, il s'agit d'un vaccin que l'on doit à Johann Cantacuzino. C'est un académicien, médecin, microbiologiste et professeur donc, roumain. Et lui, il a inventé le vaccin anti-choléra. On l'appelle affectueusement, je dirais, en Roumanie, d'après mes recherches, le Pasteur roumain. Il a fondé, donc à peu près au même moment que son précédent inventeur, en 1921, l'Institut des sérums et du vaccin à Bucarest, donc la capitale de Roumanie, et qui a en fait été construit et conçu sur le modèle de l'Institut Pasteur à Paris. Et donc, du coup, il porte son nom. Et donc, grâce à son travail, la Roumanie est le second pays au monde, après la France, à avoir introduit le BCG en 1926. Le BCG, donc, étant le vaccin contre la tuberculose. Il a organisé de nombreuses campagnes anti-épidémiques, pardon, et a permis donc de lutter contre le typhus et le choléra, notamment pendant la Première Guerre mondiale, ce qui a sauvé énormément de vies. La quatrième invention dont je vais vous parler, il s'agit de la cybernétique et on la doit à un certain Stéphane Odobleja. Odobleja, donc, c'est un scientifique qui est considéré comme l'un des précurseurs de la cybernétique généralisée et qu'il a renommé lui-même psychologie consonantiste. Il a énormément travaillé là-dessus, un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a publié pour la première fois en 1938. La reconnaissance européenne de sa contribution donc à poser les bases de ce domaine qu'est la cybernétique, eh bien, elle a été un petit peu tardive puisque en fait avec l'entrée de l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale, ses travaux sont restés un petit peu inaperçus et donc il a eu la reconnaissance qu'il, je ne sais pas s'il l'espérait, mais en tout cas qu'il méritait, seulement en 1978 lors d'un congrès où son travail a été accueilli avec énormément d'éloges. Ces ouvrages donc, ont contribué à générer d'énormes thèmes de la cybernétique et de la pensée systémique. Il a commencé à créer en fait, son modèle à partir d'observations, d'intuitions et de rationalité, comme j'ai envie de dire que c'est souvent le cas. Son travail dans ce domaine, ça a attiré malheureusement l'hostilité du régime communiste qui considérait donc, la cybernétique comme une science de nature capitaliste. Et donc vers la fin de sa vie, il a été... arrêté à son domicile et placé sous surveillance. C'est ça aussi, je trouve, qui est fascinant, en fait, dans ses recherches sur les différentes inventions des différents coins du monde, c'est que la culture et l'histoire de chaque pays, en fait, influent énormément sur le développement de ces dites inventions. Bref, parenthèse fermée. La cinquième et dernière invention dont je vais vous parler, il s'agit du Giro Vital. Alors, de quoi je parle ? On la doit à une certaine Anna Aslan, qui est spécialiste roumaine en gérontologie, médecine... je vais pas m'avancer, je sens que je vais faire une bourde, mais en gros médecine chez les personnes plus âgées. Elle est académicienne depuis 1974 et elle est directrice de l'Institut National de Gériatrie et de Gérontologie. Elle a souligné en fait l'importance de la procaïne pour le soulagement des troubles dystrophiques liés à l'âge le produit en fait gériatrique a été préparé en 1952 et breveté dans plus de 30 pays. La même année, elle a mis en place donc cet institut national dont je vous parlais, le premier institut de gériatrie au monde qui est devenu un modèle pour les pays développés grâce à une assistance clinique et à la recherche de pointe. Voilà, merci madame. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous souhaite une très bonne fin d'émission avec Jean-Noël. À bientôt.
Merci Anne-Fleur. Merci à toi. C'était intéressant de s'intéresser à la Roumanie parce que c'est finalement un pays qu'on évoque très peu dans cette émission. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien en termes de recherche scientifique et technologique. C'est peut-être qu'ils communiquent moins ou en tout cas c'est peut-être moins relayé. Donc c'est intéressant de montrer évidemment que la Roumanie est aussi un pays où il y a eu des belles choses qui ont été créées et il y a encore pas mal de choses à découvrir bien sûr dans ce pays. Merci Anne-Fleur. On te retrouve la semaine prochaine, je pense, dans une ville un petit peu symbolique pour la dernière émission de la saison. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, que ce soit en direct pendant la diffusion de cette émission le samedi ou en différé parce que vous avez eu l'intelligente idée de récupérer les podcasts, et vous avez bien raison, et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, dans l'Oise et dans la Somme. Graphite vous accompagne tous les jours, 24 heures sur 24, vous avez toujours quelque chose sur l'antenne de Graphite parce que vous êtes curieux et vous avez bien raison. Et vous êtes curieux de l'actualité scientifique, c'est encore une très bonne raison. Et nous allons continuer à feuilleter l'actualité scientifique juste après un titre que je vous propose dans cette émission. On se retrouve juste après.
J'ai de l'or, tout plein le corps, plein les bras, sous les doigts, dans le ventre et encore, c'est de l'or.
C'est pour ça que je mords. C'est pour ça que j'y pense.
J'ai de l'or, High Cowboy, sur l'antenne de Graphite. C'est sympa, on découvre depuis la semaine dernière toute une nouvelle programmation musicale dans cette émission Biotine. Je découvre les titres en même temps que vous. Et là, High Cowboy, c'est quand même assez frais, assez sympa. Même si on est en plein mois de décembre, qu'on a froid, qu'on a envie d'être au chaud, en train de boire une tisane. Et bien là, je trouve que ça nous réchauffe bien le cœur. Et c'est très bien et c'est tant mieux. Vous écoutez Biotine tous les samedis sur l'antenne de Graphite pour vous tenir informé de ce qui se passe dans le fond des océans. Parce que ça vous inquiète, parce que ça vous intéresse. Et vous avez bien raison, parce que c'est peut-être là que nous allons pouvoir produire de nouveaux antibiotiques. Une équipe de l'université Friedrich Schiller, nous sommes en Allemagne, oui j'ai un accent allemand extraordinaire, le monde entier envie mon accent allemand. Une équipe de cette université est parvenue à isoler, à cultiver ce qu'on appelle des planctomycètes, des espèces de bactéries aquatiques qui proviennent de plusieurs mers et de plusieurs océans du globe. Et parmi ces échantillons, il y a 65 nouvelles espèces qui ont été identifiées. Ok, très bien, ça peut être intéressant, on découvre des nouvelles espèces. On estime que seulement 1% des bactéries de l'environnement sont cultivables en laboratoire. Les 99 autres échappent totalement aux analyses. Donc là, on a de la chance, ça a fonctionné. Elles font partie des 1% que l'on peut cultiver en laboratoire. Pourtant, ces souches bactériennes à la génétique un peu complexe peuvent potentiellement produire des antibiotiques encore inconnus. Les scientifiques allemands ont pu étudier le potentiel antimicrobien de ces fameux planctomycètes. Il va falloir s'habituer à ce nouveau nom, planctomycètes, parce que ça va être bientôt nos futurs amis. Alors pour savoir si ces fameux planctomycètes seraient capables de synthétiser des molécules antibactériennes, eh bien les chercheurs ont procédé à des analyses à la fois biologiques et puis ils ont été aidés également essentiellement par des logiciels informatiques et leurs résultats ont été publiés dans la revue Nature Microbiology. Donc c'est quand même une revue assez sérieuse et ça va plutôt être intéressant pour le retentissement de leurs résultats parce que ces résultats montrent que ces bactéries ont des voies de signalisation très élaborées. Elles vivent en fait dans un milieu très compétitif, que ce soit l'accès à la nourriture, la colonisation de nouveaux habitats. Et donc dans ces conditions, elles vont pouvoir produire des molécules antibactériennes qui sont totalement de façon indispensable pour leur survie. Et ces planctomycètes seraient donc une source intéressante de ces fameuses molécules antibiotiques. Et de plus, les travaux de ces chercheurs, comme je vous l'ai dit, ont montré que ces bactéries que l'on trouve donc dans des environnements marins, sous-marins, et que l'on pensait non cultivables in vitro, eh bien finalement peuvent l'être cultivables. Double bénéfice, c'est intéressant. Et mon Dieu, il y a des dollars qui apparaissent maintenant dans les yeux de pas mal de laboratoires de recherche, parce que faut pas se leurrer, on est peut-être en train d'ouvrir une nouvelle piste de recherche pour la construction de nouveaux antibiotiques, ce qui est important parce qu'on sait très bien que la résistance des bactéries pose énormément de problèmes. Donc si on peut trouver de nouvelles voies de recherche pour essayer de parvenir à avoir des antibiotiques dont il n'y aurait pas encore de résistance de la part des bactéries, ça serait quand même pas mal. Et c'est peut-être ces fameux planctomycètes qui pourraient nous donner la solution. Affaire à suivre, bien sûr, mais ça a été assez relayé il y a quelques jours dans différents médias et revues scientifiques, cette découverte de ces chercheurs allemands. Et on évoquait bien sûr cela sur l'antenne de Graphite. Autre chose concernant la grippe qui est en pleine saison, bien sûr, on considère en fait chaque année que la grippe est à l'origine, de façon directe ou indirecte, de environ 650 000 décès dans le monde par an. C'est quand même pas mal. Et tout ça à cause, bien sûr, des complications respiratoires et de l'affaiblissement du système immunitaire qu'elle occasionne, la grippe, chez les personnes fragiles. Le vaccin contre la grippe contribue, bien sûr, à essayer de protéger en partie ces personnes à risque, mais on sait que le virus, il a un caractère mutagène, c'est-à-dire qu'il est quand même capable de muter assez rapidement. Ça fait que l'efficacité du vaccin est variable. On en avait parlé dans cette émission, je crois que ça va être en octobre, où on se rend compte bien sûr que composer un vaccin et pouvoir ensuite le diffuser à grande échelle, là on parle du vaccin contre la grippe, c'est aussi quelque part de la probabilité. Et de toute façon, un vaccin contre la grippe ne sera jamais efficace à 100%, il faut le savoir. On essaye en fait de faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible, mais selon ce qu'il y a comme souche de virus pendant la période d'épidémie de grippe, eh bien le vaccin peut plus ou moins être efficace. Et c'est donc un problème parce que ça reste pour l'instant la meilleure solution, ou on va dire la moins pire, pour les personnes fragiles, le vaccin. Cependant, on sait que la couverture vaccinale d'un habitant, enfin de l'ensemble des habitants, de l'ensemble d'une population, elle est totalement aléatoire. Le mode de vie est également un levier important pour essayer de conserver des bonnes défenses immunitaires. Si bien qu'on a voulu essayer de travailler sur la façon de pouvoir se nourrir. Et on a mis en place une expérience. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet-là et leur étude est parue dans la revue Science, donc grande revue scientifique s'il en est. L'expérience était d'étudier comment le fait d'utiliser ce qu'on appelle un régime alimentaire cétogène, c'est-à-dire très riche en graisse, pauvre en glucides et avec une quantité standard de protéines, eh bien on voulait savoir si ce régime affectait les défenses immunitaires des souris contre une infection mortelle au virus de la grippe. Et pour cela, on a un groupe de souris qui a suivi une alimentation classique et on a un autre groupe qu'on a affecté à ce régime cétogène. Donc je vous ai dit, très riche en graisse, pauvre en glucides, donc en sucre, et avec une quantité standard de protéines bien déterminée. On a deux groupes. L'un mange classiquement, l'autre mange ce régime, enfin en tout cas est soumis à ce régime. Et tout ça une semaine avant que les scientifiques infectent ces souris avec une couche active du virus de la grippe. Et l'expérience montre que le groupe qui a suivi ce régime cétogène voit sa population de cellules immunitaires assez spécifiques, un petit peu exacerbées au sein des poumons. C'est-à-dire que pour vérifier que le rôle de ces cellules était déterminant dans la gestion de l'infection au virus, eh bien, les chercheurs, ils ont voulu en savoir plus et donc du coup, ils ont essayé de balancer le virus et de voir la réaction et on s'est rendu compte qu'en fait, ces fameuses cellules immunitaires, elles avaient une espèce de fonction de barrière dans les poumons, c'est ce qu'on a retrouvé dans les souris, et parce que ça modifiait un petit peu, on va dire, la paroi des voies respiratoires, si bien que du coup, ces voies respiratoires étaient un petit peu plus résistantes, si on peut imaginer ça comme ça. Et donc, comme toujours, ce qui se passe chez les souris et ce qui va se passer chez l'homme, c'est pas non plus toujours aussi évident. Il y a encore, je veux dire, un monde entre les expériences chez l'homme et ce que l'on peut conseiller ou non concernant, bien sûr, la santé publique. Parce que on pourrait se dire naïvement, bah très bien, si on voit que ça a un impact sur les souris, on va se mettre à manger beaucoup de graisse, très peu de sucre, et puis certaines protéines bien spécifiques, et puis comme ça, on sera immunisé contre le virus de la grippe. Non, 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 bien sûr, ça n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune étude qui a été réalisée chez l'homme pour confirmer les résultats de cette expérience. Par ailleurs, les personnes concernées par ce risque sont les plus jeunes et les plus âgés. Et on voit mal comment on pourrait dire à un enfant, un jeune enfant ou à des personnes âgées de manger, d'essayer de suivre ce régime quand même assez particulier. Bref, c'est pas nécessairement, en tout cas, une bonne solution. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de comprendre les spécificités de ce régime cétogène, de voir de façon un petit peu plus précise qu'est-ce qui agit en faveur justement de la construction d'espèces de barrières qui va un petit peu empêcher le virus de se propager dans le corps. Ça, c'est des études qui vont se poursuivre. Donc, objectivement, on en est encore très loin, bien sûr, pour avoir une application concrète sur l'homme. Mais en tout cas, voilà, on a fait des premières études sur la souris et on essaiera d'en savoir un petit peu plus, j'allais dire, dans les années à venir, parce qu'on n'en sait pas d'ici demain la veille qu'on aura une réponse à cette question. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir qu'un régime alimentaire particulier peut avoir une influence, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté chez les souris, peut avoir une influence sur le vis-à-vis du virus de la grippe. Protégez-vous, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il y a bien sûr le vaccin qui n'est pas fiable à 100%, je vous l'ai dit. Il y a aussi pas mal de gestes également à prendre et des modes de vie également aussi à essayer de respecter. Vous avez pas mal d'instructions qui sont au niveau de la santé publique diffusées quand même à grande échelle. Donc je pense que maintenant, on est en tout cas dans notre pays assez bien informé. On écoute un dernier titre avant de se quitter dans cette émission Biotine. Vous êtes toujours à l'écoute de Graphite. Vous avez tellement raison parce que vous êtes bien finalement.
De la lime à la lame, de la bue à l'abîme, de la boue à la cime, de la frime à la flamme, du rire oral, de la rime à la rame, de l'espace à l'espèce, de laisse-moi, laisse-toi, du carreau à la caresse, du terreau au cara, du caveau au palais, du cousu au paria, du passé au parfait, du parfait à l'abstrait, du présage au présent, du firmament au filament, des firmalons au faux fuyant, du film entourant tous mes aliments, de la crue à la crise, du sucré au salé, du dégoût à l'emprise, de la chute à l'assise, du repli à l'assaut, du sirocco à la brise, de l'oubli à l'égard, du départ au dépôt, de ta peau à ma part, de l'éclat au déclin, du sérien au sérum, de l'ébat au dédain, d'un bout à l'autre, de l'azur à l'azote, de la horte à la ville, de la horde à l'exil, du péril au péril, de l'idylle à l'idiot, du stérile au fécond, de l'idéal à l'étau, de soyeux à souiller,
Du brouillon au bouillon, de touchant à toucher, de l'allure à la perte. Des souhaits au seuil, des augures à l'alerte, de l'amour à l'inerte. Du sable à la poussière, de l'homme à la bête, de l'ennui à l'envie, des prières au silence, du printemps à l'hiver, de l'inertie au silence, de l'amant à la mer, de l'âme sœur à la mer, de la peur à la paire, de la sphère à l'équerre, de l'écran à la guerre, de l'eau claire à l'alcool, de l'envers à l'envol, du ciel au sol, d'acide ou du nid douillé à l'alvéole, d'inouï à placide, de fragile à solide, de gazeux à liquide, du paumé au prodige, du génie au gênant, des liens du sang au litige, de la stase au torrent. De l'aimant au damné, du cyprès au ciment, de la rouille au lisant. Du pas sûr au pas de chance, de la passe à la passion, de la casse à la cadence, de la phobie à l'action, de l'opulence à la nasse, du lubricant à l'indigent, de la neige à la mélasse, de l'adulte à l'enfant, du confort au carcan, de l'occulte au brillant.
Et oui, c'est doux finalement, l'escrime de l'estime avec In Vivo sur l'antenne de Graphite. C'est quelques notes pour terminer cette émission de Biotine. C'était encore une émission assez complète aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de cette année 2019. Nous ferons un petit peu, un best-of, ou en tout cas revoir un petit peu les grands événements marquants de cette année 2019 d'un point de vue scientifique, technique et médical. C'est l'émission de la semaine prochaine et on retrouvera aussi, bien sûr, Anne Fleur la semaine prochaine à 12h sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve samedi prochain. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.